On l'a découverte en 68.
Par la Loire.
En 67 même.
Oui. À Gué.
Donc on arrivait par la rive gauche.
En bicyclette à l'époque.
En bicyclette, oui.
Depuis Rouen.
Et on voyait cette maison qui était donc...
une ruine, en fait, dans les ronces.
On en est tombé amoureux, on a traversé à Gué, et on a vécu à partir de 70 complètement dans les gorges de la Loire. Voilà. Le projet de barrage, il a repris fermement à partir de 73. Donc on était expropriés au même titre que les autres, et il a donc fallu...
Trouver une solution.
Donc la solution, c'était... on avait perdu la bataille des gorges de la Loire, mais on n'allait pas non plus perdre la bataille de cette maison. Cette maison, c'était quelque chose pour nous. Donc on a décidé de la démonter et de la reconstruire plus haut sur la colline. Voilà. Solstice d'été 83, donc on a pendu la crémaillère.
Et pendant qu'on construisait, l'eau s'est arrêtée un jour de courir. L'eau a stagné, on s'est dit ça y est, l'eau monte. Et c'est vrai qu'on l'entendait toujours, cette Loire, elle chantait, même quand elle était plus vive avec des crues, on l'aimait nous, cette Loire. Et en fait, c'était plus vivant que maintenant.
Ah oui,
cette
oui.
Loire.
Il n'y a pas de comparaison. Mm. Tout de suite en dessous de Saint-Maurice, il y avait deux îles et puis il y avait une série de plages. Et c'était un lieu de promenade qui était phénoménal. Et puis tout le monde y trouvait son compte. Il y en a qui campaient, bien sûr tout était gratuit. Il y en a qui se baignaient, il y en a qui mangeaient, il y en a qui... La grand-mère la mettait à l'ombre à partir du mois de mai jusqu'au mois de fin septembre. Il y avait une vie intense de villégiature qui existait ici. La Loire en dessous, elle est en attente, quoi, c'est tout. La Loire, là, c'est une personne blessée, là. Hein? Et il y a quelque chose de triste à naviguer là, sur ces eaux. Ça n'est pas toute la scolarité de notre fils. Elle s'est faite à travers la Loire. Et chaque jour, la Loire, il fallait l'interroger, savoir si elle était haute, si elle était basse, comment il fallait tirer le bateau, remonter en amont. Il fallait des fois casser la glace autour du bateau pour pouvoir traverser. Lorsque la Loire elle était trop haute, avec des crues, et bien, il n'allait pas à l'école. Et puis voilà. Mais c'était quelque chose de vivant. Et tous les jours, c'était vivant. Et puis en plus, il y avait toute la lumière qui existait. Ici, on a une grande masse qui est complètement uniforme, d'un ton qui est uniforme. Tout était différent comme renvoi de lumière.
Et tu te souviens ces grands arbres, les grands peupliers, les peupliers géants en face, c'était beau, quoi.
Mon périmètre, moi, c'est bien de... Depuis, enfin ici, de la Vourdure, enfin, qu'on appelle le Car, un peu plus haut, là. Et puis, je descends jusqu'à vers Château, là-bas. C'est bien mes coins, là, pour pêcher les grosses bêtes. Le silure est actif quand l'eau elle arrive déjà à 18-20 degrés, 24 degrés. Alors là, il est au top, là. Et des fois, on les voit monter, ils marsouinent, comme on dit, ils marsouinent comme les dauphins. Hein. Ils montent... voir. Oula, puis claque l'eau d'une force incroyable, hein. Faut y voir, faut y croire. Hein. Vers les 8-9 heures le matin, on les voit claquer, on les voit monter. C'est joli à voir. Hein. Mais c'est un poisson, tout le monde dit, oh, c'est pas un poisson qui se défend et tout ça. Ben moi, je vous dis que c'est pas vrai. Hein. Parce que comme je dis aux gars, c'est que vous n'en avez pas pris beaucoup, et pas souvent, sûrement. Parce que je vous garantis que c'est un poisson qui se défend. Hein. Moi, le plus gros que j'ai fait, 2m10, 75 kg. Ça commence à faire un beau poisson, hein. C'est quand même pas mal. Il y a des endroits comme plus bas là, quand on avance, quand je prends le bateau évidemment, parce que j'ai un bateau, j'aime bien des moments on dirait qu'on passe dans des goulets. Ça fait un peu western, quoi. Ça fait un peu. Ça c'est agréable, c'est joli. C'est la vraie nature, c'est sauvage, c'est bien. C'est ce que j'aime bien dans ce fleuve. Ouais. Voilà.
Je suis natif de la région. Je suis donc dans la tour de commande. C'est là où où sont regroupés les bureaux des exploitants de l'usine hydroélectrique et du barrage, et là où se tient également la salle de commande. L'exploitant barrage doit pouvoir avoir un visu en permanence sur l'ouvrage. Ce qui est important dans le cadre de ma fonction, c'est notamment la protection des populations contre les inondations, donc à l'aval du barrage, notamment avec une moindre augmentation du niveau de la Loire. Un autre point important, c'est subvenir aux besoins toujours des populations pendant les périodes d'étiage, donc des besoins en eau pour différentes activités agricoles, industrielles, eau potable, en garantissant un débit minimum du fleuve. Localement, c'est un paysage de moyenne montagne avec une activité agricole importante, avec des bocages, également du tourisme vert qui est en fort développement, au niveau de la randonnée, et puis également des activités qui se développent autour de la retenue, des activités nautiques. Et puis bon, après, donc c'est l'ouvrage même que je vois au quotidien, qu'on surveille. Voilà, donc ça fait partie de nos missions.
On habite à Rouen, donc on est parti après l'obstacle de Rouen.
Ouais. Bah, la descente jusqu'à Nantes, il y a 91 ponts et 4 barrages de centrales nucléaires. Donc il faut absolument trouver un système pour le porter. Donc on a deux roues amovibles qu'on place sur le canoë.
13 jours.
Ouais, 13 jours. Ouais. Avec la plus petite étape 30 km et la plus grande 81.
Il y a les piliers des anciens ponts aussi qui font des turbulences, ça stoppe l'eau, donc ça fait une pente de chaque côté du pilier, ça fait des remous. C'est toujours dangereux un pont.
Technique, dangereux, et puis
des fois, pas
et puis la Loire est, on a beau dire, on dit que c'est le dernier fleuve sauvage d'Europe.
C'est vrai,
oui, il n'y a pas de doute. Il faut tout le temps être sur ses gardes, parce qu'il y a des troncs d'arbres au milieu, il y a plein de trucs qui sont... Les petites îles génèrent aussi tout un sort de remous, c'est impressionnant. Hein. C'est pour ça que mon choix s'était porté sur la construction d'un canoë canadien. C'est pas comme les canoës en plastique, quoi, qu'il faut sans arrêt les ramener et tout. Lui, c'est un vrai 4x4. Il disait, purée, descendre ce fleuve. J'ai toujours entendu parler mon père qui parlait des Rambertes, de mon grand-père aussi. Qui travaillait dans les mines à Saint-Étienne, qui parlait du charbon, qui descendait jusqu'à Nantes et tout. Donc, je m'étais dit, c'était bien de faire aussi un lien avec ça, quoi.
Je crois que la Loire, je ne la regardais pas avant.
Mais c'est vrai que d'être pendant 11 jours à 10 cm au-dessus du niveau de l'eau, on a un regard qui est complètement différent, ça c'est évident.
Et quand je la vois, je me vois sur le canoë et la vue que j'aurais si j'étais sur le canoë là, au milieu. Puis il y a des oiseaux de partout, là, qu'on ne voit pas, mais...
On ne voit pas les traces humaines, quoi. On voit pas, aussi à part les ponts ou les grosses villes, mais tous les petits villages qui sont en bord de Loire, on ne les voit pas, quoi, parce que la Loire est tellement canalisée vers la fin. Là. On a bivouaqué sur des îles, on se croyait au milieu de nulle part. C'est un truc de fou, ça.
Moi, je suis passionné par les oiseaux. Et l'intérêt, c'est une chose de séduction, quoi. C'est-à-dire qu'on essaie de dresser, d'élever toute l'année des canards pour essayer de séduire un peu les oiseaux sauvages qui sont super méfiants. Et l'intérêt, c'est d'essayer de les faire poser. Après, le tir, c'est important, hein, mais c'est quand même relativement secondaire par rapport à l'action de chasse. C'est vraiment les canards qui vont travailler et on les entend. Voilà, l'intérêt c'est ça quoi, c'est entendre chanter mes oiseaux et surtout passer un super moment au bord de la Loire. Et là on va voir plein d'animaux, hein. Des aigrettes, des hérons, des cygnes, des canards, j'espère aussi quelques-uns. Si on a de la chance on peut voir un castor ou deux, mais ils sont. Quand je mets les canards après ils sortent un peu moins quand même, parce que c'est très très méfiant. Bon, on essaie de rentrer dans la résidence secondaire. Corto, tu viens? Corto, allez. Il n'y a pas de marche, hein, faites attention. Corto, tu viens? C'est le plus petit des canards. On appelle ça un petit clown parce qu'il a là. C'est un très beau petit canard. C'est un vieux mâle. Parce qu'il est bien en couleur. Et là, il a une barre blanche. Donc là, c'est un mâle adulte.
On avait acheté le terrain au haut en dessus là. C'est là qu'on voulait faire construire en dessus là. C'était pas mal non plus. On était moins le bord de l'eau quoi. C'était moins le bord de l'eau quoi. Ouais, c'est pas mal non plus. Hein.
Bah oui, nous l'aurions.
Bah, tout le point joli, il faut reconnaître. Hein. Le site toi.
Oui, le site extraordinaire.
La Loire, c'est la Loire. Oui. Ben, toutes les fois que je me lève, moi, la première chose que je fais, c'est regarder par la fenêtre. C'est marrant. Oui. Elle coule toujours, mais enfin oui, c'est comme ça, oui. Mais la Loire avant était plus jolie parce que elle était là, trois fois moins importante que ça. Puis ça roulait sur les cailloux, il y avait des jarres, ça faisait un bruit, ça faisait toujours un bruit. Hein. Alors que là on n'écoute rien, hein, c'est calme là, l'eau est haute. Mais sur les cailloux c'est joli, il y avait un grand jarre plein de cailloux là, où on pêchait dedans, bien sûr.
Qu'elle n'est pas propre comme autrefois.
Ben voilà.
On ne se baignerait pas comme on s'est baigné.
C'est vrai qu'elle était propre, hein, de toute façon. Ouais. D'ailleurs, quand on est venu là, il y avait une pompe qui était derrière le mur, là-bas, au bord de la Loire, hein, une pompe Japy. Et à la cuisine, il y avait une espèce de bâche à solivier. Je ne sais pas comment ils appelaient ça, ça a un nom, c'est une cuvette. Quoi. Ben, on pompait l'eau, on montait l'eau de la Loire, ouais. Et on s'en servait pour... Peut-être on ne faisait pas pour boire bien sûr, mais pour faire la vaisselle ou j'en sais rien. Moi. On s'en servait pas à cette époque-là.
Bah oui.
Parce qu'autrement on allait chercher de l'eau à la source qui est plus haut là. Il y a une source plus communale qui est à 200-300 mètres là. On allait chercher l'eau avec le seau.
C'était hein. l'eau miraculeuse. C'était
la Vierge Noire.
La Vierge Noire, oui. Et à côté, il y avait un petit lavoir, les gens lavaient leur linge. Ouais. Hein. Tout le Vernet, il n'y avait pas l'eau sur les
pour lui de septembre, il y avait une grand-mère, je m'appelle au début qu'on venait de là, une grand-mère, elle prenait l'eau des gobelets et donnait ça à boire aux gens, ça disait qu'elle était un peu miraculeuse. Et elle faisait un peu de la monnaie. Il y en a qui lui donnaient un peu des pièces de. Enfin, un peu. Ah oui, la grand-mère.
Voilà. On dirait qu'elle a remonté un coup là, la Loire. Elle a dû redescendre. Que moi, vu que je suis agriculteur vannier, moi j'ai des plantations d'osier. Mais un peu plus loin là-bas, là, il n'y a que du saule. L'osier, c'est la jeune pousse d'un an du saule. Admettons, on dit que ça c'est un saule. Il faut que je coupe ici. Comme ça là. Pour que l'an prochain, là je taille tout ça. Et l'an prochain, là maintenant au printemps, il va faire des rejets ici là. Et c'est ces rejets là que l'an prochain je vais venir ramasser. Et moi, bien souvent, je mettais propre un bon carré, là. Et puis, d'après, je reviens.
Puis en fait, les pépés du coin, là, ils sont venus, parce que le coin et la Loire, elle appartient à tout le monde. Et eux, ils sont venus, ils se sont dit, oh, c'est tout joli, là. Tac, ils ramassent. Et moi, je viens et en fait, je ramasse un quart de ce que j'avais taillé, quoi. Mais voilà, il faut accepter ça. Donc du coup, bon, après, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris pas mal de boutures en bord de Loire pour implanter dans mes oseraies. Mais après, avec des qualités différentes. Et en fait, ici, là, ce qui se passe, c'est que on retrouve le sable et on retrouve les galets. Et en fait, tous ces saules-là, ils poussent pas dans l'eau. Ils poussent sur des petits îlots. Et en fait, ça, ça leur donne une qualité minérale. Et souvent, et du coup, il y a des crues, et la Loire, elle vient, et souvent, ces souches de saules-là, elles sont brassées par l'eau. Et en fait, ça donne déjà un mouvement au brin. Voilà. Et en fait, la Loire, elle se retire, et nous, l'hiver, on vient, on récolte, et là, on a des brins, en fait, par là-bas, là, il y a des variétés, là, c'est un daphnoïde sauvage, et il donne des brins très fins, vert clair, et ça, c'est un des meilleurs osiers que j'ai travaillé, quoi. Voilà, ça donne des brins super fins, et avec une... avec tous les caractères qu'il faut, voilà, pour le travailler, ouais.
Dès que je suis venu dans le Rouennais, en fait, j'ai longé la Loire. C'était un milieu que je ne connaissais pas bien. Je suis plus de Saint-Étienne. Et j'ai remarqué pas mal de traces, pas mal d'indices. Et à partir de là, je me suis penché un peu dessus en disant qui c'est qui pouvait faire ce type de travail, notamment des travaux d'abattage, des choses comme ça. Et puis après, j'ai acquis la technique pour le... pour l'observer, commencer à voir des traces, et puis au fur et à mesure des années, son installation est beaucoup plus marquée, et maintenant on a une bonne présence, on a une bonne population. Oui, il n'y a plus de castor Loire, le castor Loire il n'existe plus, et comme la nature ne refait pas des individus, on a perdu cette souche, et c'est l'homme qui est intervenu pour réintroduire du castor rhodanien dans la Loire. Ouais, quand on était passé avec Véronique, tout ça, c'était des zones en travail. Donc le bois était beaucoup plus blanc, était beaucoup plus clair, parce que bah, il débitait, il rongeait les bois. C'est-à-dire qu'il est capable de gérer comme ça à la fois ses réserves de nourriture, y compris le système hydraulique aussi de la zone. Le Villeray, on connaît bien le nombre de populations qu'il y a. Une vingtaine, 20-25 castors. Donc sur les gravières de Battelle et gravières aux oiseaux, on sait que toutes les deux gravières sont occupées par une famille. Parce que là, on a des hauteurs d'eau qui sont très faibles. Alors que sur la Loire, avec le barrage, on a des effets... un peu coup de bélier où en quelques heures on peut avoir un niveau d'eau qui varie, donc ça les perturbe un peu. Souvent de rester comme ça tranquille et d'écouter, regarder au niveau de la surface de l'eau si on voit pas un sillon, si on voit pas apparaître un individu à la nage, et puis en même temps on écoute les oiseaux qui sont en train de se coucher là. Puis des fois le castor n'est pas au rendez-vous, donc on rentre un petit peu déçu, mais bon, on a quand même passé un moment agréable en contact avec le fleuve ou l'étang, à écouter, à sentir,